Amen. Béni soit Dieu. Vous pouvez prendre place. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans un passage de l'Écriture qu'on a parfois du mal à apprécier. C'est au début du livre des Chroniques, premier livre des Chroniques. Là, vous avez 9 chapitres de généalogie. Ce n'est pas les passages qu'on préfère. Ça nous raconte que Constantin de Tischendorf, qui a vécu donc au XIXe siècle, qui était un savant chrétien, et puis était un renommé bibliophile aussi, donc, et il a fait de grands efforts pour se procurer d'anciens manuscrits de la Bible. Donc, en particulier, il a fait plusieurs voyages au Moyen-Orient. Et lors de sa première visite, dans un couvent isolé du Mont Sinaï, le couvent Sainte-Catherine, après de laborieuses recherches, il a réussi à mettre la main sur des portions de la Bible d'écriture grecque du commencement de notre ère, et c'est vraiment quelque chose d'une valeur inestimable. Et ces manuscrits, il les a trouvés dans la corbeille à papier de la bibliothèque du couvent. Les moines, qui n'avaient aucune notion du prix de ces documents, qui étaient gardés dans les murs de leur cloître depuis si longtemps, allaient les jeter au feu. C'est un manque de discernement, parce que ces documents aujourd'hui, ils sont très très précieux, très considérés. Vous savez, que de gens de nos jours qui agissent de la même façon en ignorant, en dédaignant la valeur du livre des livres, c'est-à-dire la valeur de la Bible, qui est vraiment un trésor d'éternelle sagesse, qui est une parole de vérité, et que Dieu met entre nos mains. Et je dirais même que des chrétiens peuvent en arriver à négliger certaines parties de l'Écriture, et pourtant, celle-ci est inspirée de Dieu, de la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse. Vous savez, moi-même, j'ai appris une leçon comme ça. Dieu m'a donné une bonne leçon comme ça dans ma vie un jour. Voilà, parce que quand j'ai commencé à vraiment m'engager pour le Seigneur, pour le suivre, eh bien, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je lise la Bible, et que je lise la Bible de manière assidue, et que je la lise depuis le début jusqu'à la fin. De manière suivie, de manière régulière. Donc, j'avais quand même compris ça, de Genèse et Apocalypse. Et puis, j'avais eu l'occasion de le faire plusieurs fois déjà, mais il y avait quand même quelques livres qui m'intéressaient moins, en particulier le livre du Lévitique, ou le livre, ou justement, aussi ces 9 premiers chapitres des Chroniques. Alors, quand j'arrivais à ces endroits-là, je dois vous avouer que je les survolais plutôt, parce que, je voyais pas trop ce qu'ils pouvaient m'apporter à ce moment-là. Mais voilà, un jour, il a fallu que j'aille au Tchad, donc, et je suis enseigné là-bas au collège évangélique à N'Djamena, et on m'a aussi invité à enseigner à l'école biblique qu'il y avait donc dans la ville. Et quand il s'est agi de la répartition des livres bibliques à enseigner, les choses se sont passées de telle manière, c'était complètement en dehors de ma volonté, mais je me suis retrouvé avec quel livre à enseigner à votre avis ? Le Lévitique. Le livre du Lévitique, c'est moi qui suis tombé sur le Lévitique. Donc, ça voulait dire 2 cours d'1h30 par semaine à assurer sur le Lévitique, et ça pendant plusieurs mois. Et je n'avais plus qu'à m'étudier à une étude et à une méditation sérieuse et approfondie du Lévitique, en demandant au Seigneur de me secourir, ce qu'heureusement il n'a pas manqué de faire. Pas pour ça que je suis devenu un spécialiste du Lévitique. Mais j'ai mieux compris que toute l'Écriture est utile pour enseigner, pour conduire, pour instruire dans la justice et pour demander à Dieu d'une façon nouvelle de m'ouvrir les yeux pour contempler les merveilles de sa loi, comme il est dit dans le psaume 119, sans en négliger aucune de ses parties. Et je peux vous dire que dans le Lévitique, il y a des trésors, je dis ça quand même en passant, comme dans toute la parole de Dieu. Alors donc, voilà, dans ces 9 premiers chapitres des Chroniques auxquels nous revenons maintenant, vous avez un sujet important, qu'on voit beaucoup aussi, spécialement les chapitres 4 et 5, donc vers le milieu de cette série. Et ce thème, ce sujet important, c'est celui des conquêtes, le fait de gagner du terrain. Et nous avons 3 exemples qui nous sont donnés là, qui nous parlent de 3 types de conquérants. Vous savez, déjà au chapitre 5, au verset 26, Tilgath-Pilnéser, alors là, il est question d'un conquérant universel, bon, ça existe, hein. Après, chapitre 4, verset 39 à 41, on y reviendra, hein, je vous donne juste ça maintenant. Vous avez une conquête matérielle avantageuse, sur le coup, pour la personne, pour son intérêt personnel. Et puis au chapitre 4, verset 10, il est question spécialement d'une conquête bénie par Dieu, qui cherche la bénédiction de Dieu, et ça je ne vais quand même pas perdre de temps si je le lis. Et je vous lis cela, Jébets invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Alléluia. Voilà. Vous savez, l'esprit de conquête, c'est quelque chose qui est naturel à l'homme. C'est Dieu qui le lui a donné. Tout au début, quand Dieu s'est adressé à Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est écrit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà. Et ensuite, plus tard, lorsqu'à la fin de cette ère, de cette période, ça s'est fini en catastrophe par le déluge, hein, j'ai expliqué ça, et bien là, Dieu a recommencé avec Noé. Dans le chapitre 9, au verset 1er, nous lisons « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Donc, vous voyez que l'esprit de conquête, c'est quelque chose qui était une bonne chose au départ, hein. Bonne chose au départ, mais le problème, c'est que, comme bien d'autres choses, au moment de la chute, eh bien, le péché a corrompu cela, en ce que donc la conquête s'est faite désormais dans des buts égoïstes, et sans parler des moyens de la conquête, qui sont peuvent être terribles, on a suffisamment d'illustrations dans l'actualité en ce moment, hein. Pardon. Hélas, il en est toujours ainsi aujourd'hui. Et nous pourrons développer, dans la suite de notre prédication, Dieu voulant, trois sortes de conquêtes. Déjà, première sorte, c'est la conquête pour son propre orgueil, pour sa gloire personnelle. Ça, c'est une première chose que de l'Écriture nous parle, hein. Ensuite, la conquête aussi pour nos besoins propres, notre intérêt personnel. Et enfin, la conquête en Dieu et pour Dieu. Voilà. Nous pourrons voir que le Seigneur lui-même met certaines de ces formes de conquête en cause, hein, c'est-à-dire il ne les accepte pas, il les dénonce, et lorsqu'il est dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Et que donnerait un homme en échange de son âme ? Eh oui, c'est vrai, c'est une réalité cela. Hein. Vous savez, le 8 janvier 1854, vous savez peut-être parce que c'est comme date, mais c'est celle où James Marshall a découvert la première pépite d'or en Californie. Donc ça a été le début de la ruée vers l'or en direction de la Californie. Et sa réputation de chercheur d'or a été vite établie lorsqu'il a trouvé successivement plusieurs riches gisements. Et sa fortune semblait assurée, et pourtant, vous savez, peu d'hommes ont eu une existence aussi misérable que la sienne. Pourquoi ? Mais d'abord parce qu'il a été victime de collaborateurs peu scrupuleux qui l'ont spolié, qui se sont emparés de ses installations, qui ont exploité les filons qu'il avait découverts. Et puis en plus, ben, puisqu'il avait une réputation de « découvreur », entre guillemets, eh bien, cette réputation était telle qu'il n'a pas plus pu se déplacer sans être accompagné d'une nuée de chercheurs d'or qui ne laissaient aucun répit. Et c'est ainsi que, finalement, découragé, ruiné, malade, il a terminé sa vie dans une profonde détresse. Et bien des fois, on peut imaginer qu'il a maudit le jour où il avait ramassé cette première pépite d'or. Il croyait avoir rendez-vous avec la fortune, donc avec le bonheur, mais il n'a rencontré qu'amertume et misère. Et comme beaucoup d'hommes, il avait pensé que la réussite de la vie c'était nécessairement liée à la richesse, à l'abondance des biens matériels. Aussi avait-il entièrement consacré son temps et ses forces à cette recherche, et ça c'est une erreur dramatique. Hein, une erreur dramatique. La Bible nous montre que tout l'or, tous les trésors du monde ne peuvent pas suffire à apporter le bonheur véritable. Seul un cœur en paix avec Dieu peut connaître une joie profonde et inaltérable. Et Jésus s'est adressé à tous lorsqu'il a dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et je lisais encore le témoignage d'un technicien agricole retraité qui avait fait une expérience intéressante à ce sujet. Voilà ce qu'il dit. J'ai commencé ma vie professionnelle dans l'agriculture, dans la multiplication des semences de céréales sélectionnées. Et je me souviens que j'ai convoité pendant des années un champ voisin de ma propriété. Ensuite, je l'ai loué, puis le propriétaire est mort, et la veuve m'a dit « Vous pouvez l'acheter ». Je l'ai acheté. Avant de descendre chez le notaire, j'ai regardé ce champ magnifique, facile à exploiter, se prêtant bien à mes cultures spécialisées. Il y avait dans mon cœur ce profond désir de le posséder. J'ai signé l'acte, et au retour, je me suis arrêté devant ce champ. Maintenant, il est à moi. Eh bien, j'aimerais essayer de traduire mon sentiment, une sorte de déception intérieure. J'avais enfin ce champ, mais sans pour autant posséder un gramme de bonheur de plus, sinon une responsabilité supplémentaire. Le bonheur n'est pas dans la possession. J'ai donc découvert qu'il ne s'agit pas d'ajouter maison à maison, champ à champ pour réussir sa vie, mais en toute chose, de rechercher la volonté de Dieu. Voilà. Eh oui, c'est une expérience, hein. Mais par contre, voyons qu'il y a une forme de conquête que le Seigneur approuve sans réserve. Lorsqu'il explique, lorsqu'il dit à ses disciples et à tous ceux qui voudraient le suivre, donc dans tous les temps, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. » Voilà une bonne conquête. Et le Seigneur ajoute à ce sujet, « Amassez-vous des trésors au ciel. Hein » Voilà. Alors parlons donc maintenant, après cette introduction, parlons des conquêtes du monde telles qu'on peut les voir, de l'homme inconverti. Alors là, nous avons voilà un exemple après une longue série d'autres, mais quand même cet exemple, nous le voyons au chapitre 1 des Chroniques, au verset 10, donc dans le début de notre passage. Et là, nous lisons « Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. » Nimrod, il est question de Nimrod, donc, que certains connaissent mieux sous le nom de Nemrod, mais en tout cas, voilà. Et si vous voulez plus de détails sur l'histoire de cet homme-là, eh bien, vous allez dans la Genèse, au chapitre 10, au verset 8, et là, vous lisez « Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commencera à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. » C'est pourquoi l'on dit « comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel ». Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Alors là, que peut-on dire à propos de cet homme? Déjà un homme courageux. Un vaillant chasseur devant l'Éternel, à une époque où vous n'aviez pas des carabines, des puissantes carabines avec à lunettes pour abattre l'animal de loin, hein, c'était pas ça. À ce moment-là, il fallait aller au corps à corps, et puis il y avait des animaux qui étaient particulièrement impressionnants aussi, hein. Donc voilà, déjà, un homme courageux, et puis aussi un homme entreprenant. Un homme travailleur, on ne peut pas dire cela, il y a la construction de plusieurs villes à son actif, ça veut dire qu'il était grand organisateur, qu'il était grand meneur d'hommes, inlassable dans ses œuvres. Et je dirais que c'est au moyen de ces deux qualités, qui sont des qualités, le courage et le travail, que beaucoup d'hommes ont pu bâtir de grandes choses, bâtir parfois des empires. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui c'est encore le cas, hein, mais le problème... C'est que Dieu n'approuve pas, c'est l'égoïsme qui est à la base, l'égocentrisme qui est à la base de tout cela, hein, sans se soucier de Dieu et sans se soucier du service de Dieu. En fait, ce qui manquait à ces hommes, on le voit clairement dans cet homme, ces hommes dont Nimrod est donc l'image, le précurseur, c'est une qualité. Cette grande qualité, c'est celle de la soumission à Dieu. Et il a fallu attendre encore des siècles avant l'arrivée d'Abraham, qui lui avait... ses qualités de courage, d'esprit d'entreprise, mais il avait en plus cette soumission à Dieu. Hein. Il faut se souvenir que Nimrod, ça voulait quand même dire, ça signifie rebelle. Hein. Donc, et là, je notais encore le témoignage de cette situation qui s'est produite il y a quelques années dans un milieu d'affaires. C'était l'agent d'une importante et florissante maison de commerce qui a entrevu une possibilité d'enrichissement considérable pour la firme, mais ça entraînait l'acceptation de certains agissements qui étaient en contradiction avec les instructions précises qui lui avaient été données. Voilà. Alors, il était devant un dilemme. Est-ce qu'il allait accepter d'enfreindre les règles pour un grand bénéfice ou est-ce qu'il allait obéir ? Il a accepté de les enfreindre et il a connu une réussite commerciale en flèche qui a procuré de grands profits à ses employeurs. Et s'il avait obéi aux ordres reçus, eh bien, ça n'aurait pas été le cas, ça n'aurait pas été perçu, tout ça aurait été perdu. Alors qu'il s'attendait à recevoir des éloges, il a été congédié. Ah, voilà, il a été mis à la porte. Vous savez, après je ne vais pas entrer dans les détails de l'affaire, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que Dieu ne nous demande pas le succès, Dieu nous demande l'obéissance. Ça, c'est déjà une chose importante. Il nous appartient à nous à suivre ses instructions, et c'est Dieu qui va s'occuper des résultats. Vous savez, Jésus a dit... Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et pour bien que ça nous rentre dans l'esprit, il a remis la chose dans l'autre sens. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous? Et il s'est même ajouté que le Saint-Esprit est donné pas à n'importe qui, le Saint-Esprit est donné à ceux que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et c'est pour ça que notre devoir, notre responsabilité, en tout cas si nous voulons être béni par Dieu, si nous voulons que Dieu puisse mettre sa main sur nous, eh bien, c'est de chercher quelle est la volonté de Dieu. Hein. C'est de chercher quelle est son opinion. Pas de faire simplement ce qui nous semble bon, comme ça, au premier abord, mais de chercher quel est son désir, ce qui lui est agréable, et d'y obéir de tout cœur. Ça, donc, c'est le grand point. Et donc, chez tous les grands hommes de Dieu, eh bien, vous trouverez, effectivement, vous trouverez la même chose, ces trois choses, donc, le courage, l'esprit d'entreprise et la soumission, ce qui fait qu'ils ont pu être utilisés et bénis par Dieu. Amen. Un autre conquérant, enfin, une autre personne, donc, on peut faire rentrer dans cette même catégorie, dont peut-être vous n'avez pas entendu beaucoup parler, mais... Il porte le beau et doux nom de Tiglath-Pilnéser. Si vous êtes en recherche d'un nom ou d'un prénom original, voilà. Il y en a qui cherchent en ce moment des prénoms plus originaux les uns que les autres pour leurs enfants. Voici une possibilité. Donc, chapitre 5, verset 26. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie, et Tiglath-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduit à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Voilà. Donc Tiglath-Pilnéser, c'est l'homme qui a fait de l'Assyrie un empire au sommet de sa puissance. Et pour ça, aucun cadeau. Hein. Pour ça, aucun cadeau, prêt au pire massacre, hein, c'est en tout cas ce que l'histoire ancienne nous apprend, aucun sentimentalisme, aucune pitié pour l'adversaire, aucune concession à l'égard de ses ennemis. Alors c'est un mauvais exemple, évidemment, mais malgré tout, vous savez, même des mauvais exemples, parfois on peut tirer de bonnes choses. En tout cas, dans le conflit spirituel dans lequel nous sommes engagés, pour ce qui nous concerne, eh bien, je crois que c'est quand même bon aussi de ne pas faire de cadeaux à l'ennemi. Hein. Là encore, c'est bon de ne pas se laisser diriger par nos sentiments. Vous savez, les sentiments, c'est une très mauvaise locomotive pour notre vie. Les gens qui sont conduits par leurs sentiments, ils vont partir, ils vont de tous les côtés, ils vont être brinque-ballés de gauche et de droite. Je ne dis pas que les sentiments n'ont pas de valeur, mais si vous comparez la chose à un train, eh bien, mettez les sentiments comme wagon, mais ne les mettez pas en locomotive de grâce. Hein. Que la locomotive, eh bien, ça puisse être votre foi en la parole de Dieu, votre raisonnement qui est sanctifié par le Seigneur, là d'accord. Hein. Et que les sentiments viennent après. Ils sont très bons lorsqu'ils sont à leur place. Et donc voilà, hein, ne pas faire de concession à l'adversaire, là encore, hein, dans ce combat spirituel, ni au niveau de la doctrine, ni au niveau des manières de travailler pour Dieu, ni au niveau de notre consécration à son œuvre. À l'image de l'apôtre Paul, rappelez-vous, lui aussi, vous savez, il ne faisait même pas, je dirais, d'illusions sur lui-même, hein, c'est pour ça qu'il disait par exemple, dans 1 Corinthiens 9, au verset 26, « Moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure, je frappe, mais non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché à d'autres. Eh oui, hein, c'est vrai. Hein, donc, et lorsqu'il finit sa vie, eh bien, il dit « j'ai combattu le bon combat ». J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais il est resté toute sa vie dans cette attitude de combat, de lutte, hein, avec le secours du Seigneur, bien sûr. Alors, quelqu'un qui est peut-être plus connu, de beaucoup d'entre nous en tout cas, c'est Nebuchadnezzar. Encore un beau prénom. Voilà. Et là, je lis, donc, au chapitre 6, au verset 15, « Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. » Voilà. Alors là, c'est un autre empire dont il est question, qui va succéder à l'empire assyrien, c'est l'empire babylonien. Et cette fois-ci aussi, dans cet empire babylonien, écoutez, il s'est passé aussi vraiment des choses absolument extraordinaire en ce qui concerne, par exemple, les constructions. Hein. Donc, voyons qu'à un moment, Nebuchadnezzar est extrêmement fier de cette capitale qu'il a sous les yeux. Et puis, vous lisez dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 4, au verset 30, le roi, donc c'est Nebuchadnezzar, prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Voilà, il est en train de se rengorger, vous voyez, il est rempli d'orgueil, hein, et puis je ne résiste pas au fait de vouloir lire la suite rapidement. « La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. » Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Voilà, donc, c'est vrai que Babylone, c'était quelque chose. C'est à Babylone que vous trouviez une des sept merveilles du monde antique. C'était les fameux jardins suspendus de Babylone, qui n'était qu'une merveille parmi d'autres dans cette ville. Hein. Vous aviez l'extraordinaire porte d'Ishtar. Donc là, je vous parle de découvertes archéologiques qui ont été faites. Hein. Quand Nebuchadnezzar en parle, il parle de réalité. Vous aviez ces immenses avenues, ces immenses murailles. Les temples de Bel et de Marduk, dont les ruines aujourd'hui sont encore impressionnantes. Vous aviez, les palais extraordinaires, les immeubles, hein, les immeubles qu'il y avait là, dans cette ville, c'était vraiment quelque chose. Et là encore, nous avons donc cette image de l'homme qui travaille pour les choses qui se perdent, qui se gâtent, parce que tout ça c'est en ruine aujourd'hui, tout ça c'est tombé en ruine. Hein. Et que de gens qui travaillent de cette manière-là et de cette façon-là. Mais là encore, le but de l'apôtre Paul est différent. Et il ne travaille pas, lui, pour des choses qui passent, mais il parle pour celles qui demeurent et qui demeurent toujours. Et lorsqu'il dit son objectif, Philippiens chapitre 2, verset 16, « Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. » Et le Seigneur Jésus lui-même nous dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. » Hein, donc, imitant ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent des promesses, est-il écrit encore par ailleurs, ou encore travailler à votre salut, avec crainte et tremblement. Amen. Voilà. Nous avons vu ces trois conquérants qui sont l'image, donc, de cette manière de conquérir voilà. Nous poursuivons et nous arrivons à notre deuxième grand point, les conquêtes pour nos propres intérêts, les conquêtes pour nous-mêmes. Là, ce qui va intéresser, je dirais, personnellement chacun, hein, donc, quelque part, il va intéresser la personne, peut-être son propre égocentrisme. Et là, nous avons ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont partie de ceux qui agissent de cette façon-là. Vous avez aussi ce que la parole de Dieu appelle des chrétiens qui sont charnels. L'apôtre Paul est obligé de dire, lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, chapitre 2, verset 20, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » gens qui cherchent leurs propres intérêts. Et dans les premiers livres, les premiers chapitres au livre des Chroniques, nous pouvons voir plusieurs passages qui nous parlent de cette manière de conquérir. Et nous pouvons remarquer donc, là, déjà on va commencer par le premier texte à ce sujet, chapitre 4, verset 41, qui nous montre qu'on sait bien se donner du mal pour ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse directement. Il est dit là, chapitre 4, verset 41, « Ces hommes inscrits par leur nom arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là. Ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour. Ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. » Et vous voyez la même chose au chapitre 5 et au verset 10, vous lisez, « Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. » Vous savez ce qui est surprenant dans cette affaire, si on connaît un petit peu la Bible, c'est que 4 siècles auparavant, Josué avait dit à tous les membres des tribus qu'il fallait qu'ils conquièrent le pays, la part du pays qui leur était confiée à chacun, sans tarder, sans négliger. Et il avait insisté, hein, il avait dû les reprendre même, parce que leur dire jusqu'à quand négligerez-vous, hein, d'obéir, jusqu'à quand négligerez-vous de conquérir. Et eux, pendant 4 siècles, ils n'avaient pas bougé, ceux dont j'ai parlé là. Et puis là maintenant, voilà qu'ils ont un besoin, hein, et ils ressentent qu'ils ont besoin d'espace. Alors maintenant, voilà, c'est maintenant qu'ils vont se mettre en route pour conquérir le pays. Et ça, c'est l'image, vous savez aussi, de certains croyants qui ne luttent pas quand Dieu leur demande de le faire, mais seulement quand ils en ressentent le besoin, voyez-vous. Et souvent, le problème, c'est que ça va être dans l'urgence, hein. À ce moment-là, d'un seul coup, il y a un besoin, il y a une urgence. C'est Voltaire qui disait à propos des Romains la chose suivante. « Le plus grand défaut du gouvernement des Romains en fit des conquérants. » C'est parce qu'ils étaient malheureux chez eux qu'ils devinrent les maîtres du monde. Alors, je ne sais pas si cette appréciation de Voltaire correspond justement exactement à la réalité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut se produire pour des chrétiens. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Félix Neff, qui a été considéré comme l'apôtre des Hautes-Alpes. Hein, donc, c'est au début du XIXe siècle. Et en 1825, il écrivait une lettre à ces chrétiens, ceux qu'il avait amenés à l'Évangile, donc dans les Hautes-Alpes, parce qu'il était obligé de s'absenter, parce qu'il était éloigné par la maladie pendant un temps. Et voilà ce qu'il leur écrit, qui est valable pour ceux de 1825, comme ceux de 2022 probablement. Donc il écrit la chose suivante. « J'espère que vous ne perdez point patience en veillant pour attendre l'époux. Nous sommes dans le monde comme le soldat en campagne, tantôt bien, tantôt mal. » Et souvent, comme lui, nous oublions l'avenir. Et quand nous trouvons quelques bons cantonnements, nous mangeons tout, sans rien réserver pour le mauvais temps, c'est-à-dire que nous ne profitons pas des temps de grâce et de paix pour nous fortifier en connaissances et en bonnes habitudes, qui nous seraient bien utiles dans les temps de sécheresse et de tentation. J'espère que personne ne s'est relâché, car la présence du Seigneur ne tient pas à tel ou tel personnage, c'est-à-dire à son absence, à lui. Hein. Il dit, et c'est peu de choses qu'un chrétien qu'il faut toujours mener. Eh oui, Félix Neff, voyez-vous, le 19 mai 1825, lettre qu'il a écrite donc à ce moment-là. Alors, le problème c'est que quand on attend trop pour conquérir, eh bien certaines conquêtes vont peut-être d'une certaine facilité, mais d'autres ça va être juste. Hein. Et là vous avez un exemple aussi, dans les Chroniques, donc au chapitre 5, au verset 19 et 20, et là il est marqué... Il fit la guerre aux Agaréniens, à Jétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à combattre, et pendant le combat, les voilà qui ont crié à Dieu. Hein. Ben, je dis franchement, c'était ric-rac, hein. Il s'en est fallu de peu qu'il soit vaincu. Et ça nous invite aussi à quand même réagir avant qu'on se trouve dans une situation in extremis, voyez-vous, hein. Et ça, quelque chose qui nous parle, d'autant plus qu'après, ben, vous avez un autre passage dans le chapitre 7, donc là vous êtes toujours dans les chroniques, le chapitre 7, cette fois-ci encore, vous voyez qu'il y a bien des leçons qu'on peut tirer de ces chroniques-là. Chapitre 7, verset 20, et là nous lisons, par contre, « Fils d'Éphraïm, Shutelach, Béred son fils, fils Tachat son fils, Eléada son fils, Tachat son fils, Zabad son fils, Jushutelach son fils, Ézer et Eléad, les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. » C'est un drame, ça, hein? Un drame, bah oui, certainement. Pourquoi? Parce que cette tentative de conquête, elle s'est transformée en défaite. Elle a mal tourné, bien justement, parce que ils ont trop tardé. Ils ont trop tardé, puis probablement, alors je ne connais pas tous les détails qui ne nous sont pas donnés, mais probablement ne s'étaient-ils pas mis dans la position, ne s'étaient-ils pas préparés pour cette entreprise dans laquelle ils se sont lancés de manière, comme nous l'avons dit, hâtive, tardive et sans réfléchir. Donc, ça veut dire aussi, tout ça, c'est cela pour nous avertir. Et puis nous passons maintenant aux conquêtes pour Dieu, c'est notre troisième grand point. Et là, nous avons trois exemples qui ressortent particulièrement. Vous avez Jébeth, vous avez Caleb, vous avez Josué. Il en est question dans ces premiers chapitres des Chroniques-là. Et vous voyez un même esprit chez tous les trois, c'est-à-dire qu'ils vont conquérir et vont mettre leur conquête au service de Dieu, et ce qui fera que Dieu leur donnera un salaire, et eux-mêmes remettront leur salaire au service de Dieu, ça amène quelque part à un cercle vertueux de bénédictions supplémentaires. Amen. Hein? Alors prenons cela un peu en détail. Dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10, je l'ai déjà lu, mais je ne résiste pas au plaisir de le relire. Jébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La prière de Jébeth, vous le remarquez bien, compte quatre demandes. Et Dieu va lui répondre sur tous ces points. Celle qui nous intéresse particulièrement pour notre sujet d'aujourd'hui concerne donc l'extension de ses limites. Vous savez, Dieu désire aussi cela pour nous aujourd'hui, hein, de manière spirituelle bien sûr, mais dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, il est écrit « Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. » Alléluia, ça c'est glorieux. Ensuite, dans 1 Corinthiens 14, au verset 1, par exemple encore, il est marqué « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez, désirez, recherchez, est-il dit. » Il est marqué encore, l'apôtre dit « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et on pourrait multiplier les passages pour nous montrer ce désir de Dieu que nous puissions nous aussi étendre nos limites. Vous remarquez aussi que cette prière de Jébeth, elle nous laisse un goût d'inachevé, effectivement. Ça suppose un engagement. Hein. Puis vous avez trois points de suspension là à la fin de la prière, c'est dit. Mais quel est cet engagement? L'engagement ne nous est pas précisé ici. Peut-être, probablement, la réponse se trouve-t-elle un petit peu avant, dans le chapitre 2, au verset 55, où nous lisons « Et les familles des scribes demeurant à Jébeth, les Tiréatiens, les Chiméatiens, les Sucatiens, ce sont les Kéniens, ici de Hamath, père de la maison de Récab. » Donc, les familles des scribes qui étaient sur le territoire donc de Jébeth. Ça veut dire que c'est lui qui leur avait ouvert la possibilité d'être là, c'est lui qui les avait accueillis là, et ces familles de scribes, c'était ceux qui étaient chargés d'étudier la loi, d'étudier la parole de Dieu, bien sûr de la mettre en pratique, et aussi de l'enseigner au peuple. Et ainsi voyons-nous que Jébeth aurait mis sa bénédiction qu'il a reçue au service du Seigneur, au service du peuple de Dieu, de la parole de Dieu et de son enseignement. Amen. Hein? Et ainsi, nous sommes invités, nous aussi, à chercher, là aussi, à avancer, à progresser pour mieux servir Dieu et non pas pour nous-mêmes. Et là aussi, nous voyons aussi ce que Dieu désire faire si nous sommes fidèles. Et je lisais à ce sujet cette petite constatation d'un homme de Dieu qui s'appelle Louis Mayer. Et voilà ce qu'il dit, ce qu'il a remarqué. « Le monde ne lit guère la Bible, mais il étudie d'autant plus les chrétiens. Dès qu'un homme fait profession de croire, il se forme autour de lui un cercle d'observateurs. Des yeux d'Argus suivent ses mouvements. N'en doutons pas. Il y a, dans toute âme d'homme, même la plus égarée, un esprit très profond et un sens très droit, très perspicace de la vérité. Comme on sent la justesse d'un accord, comme on est saisi et touché par une mélodie, le cœur est touché par l'accent, par le regard, par la seule approche d'une âme en qui Dieu habite. Il y a eu peut-être chez cet homme une longue défiance, peut-être un malicieux essai de vous pousser à l'extrémité, en tout cas une lutte résolue de mauvais esprit contre l'esprit qui parle en vous. Mais il y a aussi une corde émue, il y a aussi une heure inconnue mais décisive où sans le savoir il vous attend. Et si à cette heure vous êtes fidèle, si vous êtes un témoin de Dieu, vous aurez vaincu. Vous aurez vaincu et vous serez un moyen de bénédiction et de salut par votre témoignage. Amen. Et ça, c'est important d'avoir conquis pour le Seigneur. Donc, et je donnais encore un autre. Alors cette fois-ci, après la théorie quelque part, la pratique, c'est le missionnaire David Brainerd. Donc c'est celui qui aux États-Unis a annoncé l'Évangile aux Indiens, le premier, de manière vraiment convaincante pour eux, les attirant à l'Évangile par un très bon témoignage. Je vous lis simplement cette anecdote. Tomahawk en main, les Indiens s'approchèrent en rampant de la tente qui les intriguait. Comme ils lorgnaient prudemment par-dessous la toile, ils oublièrent complètement leur intention de tuer. Là, au milieu de la tente, se trouvait un homme à genoux. Pendant qu'il priait, un serpent à sonnette passa entre ses jambes et se dressa en posture de combat. Alors qu'il était en train de prier, il n'a même pas remarqué. Mais le serpent n'attaqua pas. Il rentra sa tête et se glissa en dehors de la tente. C'est longtemps après que David Brainerd, l'homme qui était dans la tente, découvrit pourquoi les Indiens de ce village l'avaient reçu avec tant d'honneur, alors qu'ils s'attendaient plutôt à être attaqués par eux. La raison de cette volte-face dans leurs sentiments était le rapport fait par leurs camarades de la scène dont ils avaient été témoins. Ils le regardaient comme un messager du grand esprit, et c'est bien ce qu'il était. Et c'est ainsi que ce fidèle missionnaire parmi les Indiens d'Amérique du Nord a été quelque part un conquérant pour Dieu en gagnant des âmes à Christ parmi eux par sa consécration, sa fidélité, son amour des âmes et par la prière de la foi. Amen. Amen. Après Jébès, parlons de Caleb. Caleb, il en est parlé aussi dans les Chroniques, au chapitre 6, cette fois-ci, et au verset 55. 6, verset 55. Voilà. On donna Hébron dans le pays du Juda et la banlieue qui l'entoure, mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Voilà, Caleb, fils de Jéphuné, là vous avez l'image du vrai conquérant de Dieu. Rappelons-nous, bien des années auparavant, 45 années auparavant en fait, donc il y avait eu le peuple d'Israël sortant du désert, était arrivé à la frontière du pays de Canaan, ils avaient envoyé les 12 espions pour faire un rapport sur le pays qui était à conquérir. Et ces 12 espions étaient revenus, 10 d'entre eux avaient fait un rapport extrêmement négatif, en parlant des ennemis puissants, des géants qu'il y avait, etc. C'est impossible de conquérir. Il n'y avait que deux qui avaient fait un rapport positif, un rapport de foi, c'était Josué et Caleb. Et c'était Caleb spécialement qui s'était exprimé, il a dit « Mais non, on va y aller, et puis le Seigneur va nous rendre vainqueurs. » Et d'avoir dit ça, il avait risqué sa vie parce qu'ils avaient voulu le tuer. Ainsi que Josué d'ailleurs, à l'époque, tout ça, ça nous est relaté dans Nombre chapitre 13, versets 30 et 31. Donc, et puis suite à cela, Dieu était intervenu, donc il les avait renvoyés au désert pendant 40 ans. Donc, mais la promesse était restée pour Caleb. Et ce que nous voyons, c'est que Caleb, 45 ans plus tard, donc il avait 85 ans à l'époque, et il dit « J'ai autant de force que j'en avais alors pour sortir et pour rentrer. » Et il avait gardé le souvenir de la promesse de Dieu. Il avait gardé le souvenir de cette promesse, l'assurance, il avait gardé sa conviction, il revendique toujours le même territoire, il a toujours ce même esprit de conquête. Et c'est de cette manière-là qu'il va s'emparer de la ville d'Hébron et de ses alentours, et ça n'a pas été un chemin de facilité que de le faire, mais en tout cas, En tout cas, il l'a fait. Il l'a fait, pourquoi ? Bien parce que, justement, il a gardé intact cet esprit de conquête. Il a compris que dans la vie, vous savez, il y a des choses qui transcendent notre existence, simplement. Hein? Donc, notre vie, elle n'est pas proportionnée à la durée, en fait. Hein? L'important, c'est pas, en fait, de devenir vieux. L'important, c'est de faire quelque chose qui dépasse et qui transfigure notre vie. Ça, c'est l'important. Hein? L'âme, notre âme, c'est quelque chose qui est plus grand que notre vie. Rappelle le témoignage de ce père de deux fils, c'était pendant la Première Guerre mondiale, la triste, terrible guerre. Mais donc, il avait deux fils qui étaient au front et quelqu'un lui demandait « Est-ce que vous priez pour vos fils ?» Alors, il a dit « Oui, je prie chaque jour pour eux. Mais je ne demande pas avant tout à Dieu de protéger leur vie. » Pas avant tout, en tout cas. Il lui demandait, bien sûr. Mais je lui demande avant tout de garder leur âme, car je préférais apprendre que mon fils est mort sur le front plutôt que de le voir revenir aigri, désabusé et débauché. Voilà ce que disait ce père. Et on raconte un autre père, un tailleur finlandais, qui lui écrivait à son fils « Tu seras peut-être tué, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui importe, c'est que tu restes près de Dieu. » Ceux qui disent ça, ils savent qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la vie naturelle que Dieu donne, et c'est cette vie qui est en nous, cette vie qui est précieuse, cette vie qui est éternelle. Et l'apôtre Paul disait que pour ce qui les concernait, il ne faisait lui-même aucun cas de sa vie, pourvu qu'il accomplisse la course qu'il avait à mener, pourvu qu'il accomplisse la vocation que Dieu voulait pour lui, la mission que Dieu lui avait confiée, les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour qu'il les accomplisse. Et combien nous ferons bien, nous-mêmes aussi, d'agir de façon semblable, de tout notre cœur, sans tarder, sans hésiter, en nous concentrant tout à nouveau sur ce seul objectif que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Amen. Hein? Donc, c'est là encore une petite citation que je vous donne là également, et ça a pour titre « Seul ». Seul. Il est humain de faire chorus avec la foule. Il est divin de se tenir debout et seul. Humain de suivre le peuple, de se laisser emporter par le courant. Divin de suivre un principe, de lutter contre le courant. Personne ne fut avec moi, tous m'abandonnèrent, écrivait le vaillant apôtre en décrivant sa première comparution devant Néron, parce qu'il croyait et enseignait contrairement au monde romain. Noé bâtit et voyagea seul. Ses voisins se moquèrent de ses craintes puériles en apparence et périrent tous sans une seule exception. Abraham marcha et adora seul. Les sodomites se riaient du simple berger. Ils suivirent le courant du monde et furent la proie des flammes. Daniel mangea et pria seul. Élisée sacrifia et témoigna seul. Jérémie prophétisa et pleura seul. Jésus aima et mourut seul. Bon, alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il nous faut rechercher la solitude et éviter la communion fraternelle, c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une réelle communion personnelle avec Dieu, et ça, c'est quelque chose qui nous sera ensuite d'un grand secours face à l'adversaire, face à l'adversité, dans les situations où personne ne pourra gérer, où personne ne pourra résister ou réagir à notre place, et ces situations, bien, elles sont importantes pour notre avenir, et plus encore pour notre éternité. Amen. Voilà donc pour Caleb. Caleb, donc, au prix d'un dur combat, nous voyons qu'il a obtenu Hébron, mais qu'est-ce qu'il va faire de cette ville ? Bien, il va la mettre au service de Dieu, on le voit clairement. La mettre au service de Dieu, ça va être les Lévites qui vont posséder les tribus de Lévi qui vont posséder cette ville, et plus tard, elle va devenir une ville royale, ce qui correspond à une faveur particulière de la part du roi. Et c'est vrai que ce qui est donné au service du Seigneur, ça reçoit aussi une bénédiction spéciale de sa part. Au bout du compte, on est toujours gagnant. Amen. Enfin, Josué, dont il est question aussi dans 1 Chronique au chapitre 7, au verset 27 et 28. Et là, nous lisons, verset 27. Nun son fils, Josué son fils. Ils avaient en propriété pour habitation Bethel et les villes de son ressort, à l'orient Naharan, à l'occident Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Lorsque vous regardez ce passage, lorsque vous voyez sur une carte, à quoi cela correspond ? Ben, ça correspond à une étendue de territoire considérable. Hein. Étendue de territoire considérable conquis sous la direction de Josué. Hein. Donc Josué qui est dans le même état d'esprit que Caleb, dont on a parlé. Et ce qui est surprenant, et là je ne vais pas lire le passage parce que ça nous emmène trop loin, mais dans Josué chapitre 19, verset 50, on voit que Josué ne gardera pour lui qu'une petite ville, hein, Timnath-Sérac, dans le pays d'Éphraïm, une petite ville en plus qu'il faudra reconstruire, alors qu'il aurait très bien pu, en tant que chef, se réserver la plus grosse part du gâteau, hein, mais pas du tout. Hein, nous voyons qu'il n'a pas du tout agi de cette manière-là. Et puis, cette ville donc, qu'il a conquise, celle qui était la tête de tout le pays là, dont on a parlé, c'est-à-dire Bethel, eh bien, c'est une ville donc, qui a été gagnée aussi dans ce combat, c'est dans Juges 1, 22 qu'on le voit, mais Bethel, eh bien, il l'a consacré à Dieu. Il l'a consacré à Dieu pour que ça devienne un centre spirituel, ce qui effectivement a été le cas, on le voit bien dans Juges chapitre 20. Mais le problème, c'est que plus tard, Bethel tombera dans l'idolâtrie, hein, ça c'est dans le livre des Rois au chapitre 12. Et comme ceci nous parle aussi du risque, vous savez, faut pas se reposer sur ses lauriers, hein. Donc ce risque de devenir idolâtre quand on n'est plus consacré. On ne peut pas se reposer sur la gloire de son passé. Hein, ce que, hélas, les gens de Bethel ont certainement eu tendance à faire. Et là encore, tout ceci pour nous rappeler que tout ce que nous voulons gagner, ben, ça doit l'être pour le service de Dieu et surtout le rester, et le rester jusqu'au bout. Amen. En conclusion maintenant, je cite simplement deux passages que je rappelle. Déjà dans Nombre 14, verset 24, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Ça, c'était la promesse de Dieu qui s'est accomplie, la manière dont nous avons pu un petit peu le détailler. Josué 18, verset 3, là il dit encore « Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. » Puissions, nous aussi, avoir ainsi un esprit de conquête pour le service de Dieu et dans sa volonté. Et ne pas le négliger, que ce soit sur le terrain de notre communion avec Dieu, que nous puissions aller de l'avant. Que ce soit en ce qui concerne la bénédiction dans notre foyer, dans notre famille. Hein, que nous puissions aller de l'avant aussi. Que ce soit au niveau de notre témoignage et aussi de notre esprit de prière, là aussi que nous puissions conquérir. Celui de notre consécration, de notre sanctification. Celui de notre amour pour la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des terrains de conquête possibles qui sont devant nous. Celui de notre engagement dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, celui de notre marche céleste. Amen. Donnez-nous encore un beau témoignage, hein, par le témoignage missionnaire de gens qui ont été des conquérants. Là, c'est une toute autre situation. C'est au Punjab, c'est en Inde, donc, et c'était Samuel Stokes, donc, qui était missionnaire au Punjab et qui traversait le pays avec seulement une bouteille d'eau et une couverture. Il comptait sur l'hospitalité des habitants. Ça se faisait couramment là-bas, à l'époque, hein, donc. Et un jour, il est arrivé dans un lieu où il a rencontré un accueil particulièrement hostile. Les principaux du village se tenaient en cercle, assis sur des sièges, en train de fumer, et lui, il devait rester toute la soirée par terre, à leurs pieds. Et il leur a demandé s'il pouvait donner ses soins aux malades et apporter son enseignement. Et voilà que d'horribles insultes l'ont accueilli. Alors, il n'a pas répondu. Ils lui ont donné à manger de vieux croûtons dans une jatte sale. Il les remercia courtoisement. Il mangea et ça a continué comme ça pendant 2 jours. Et puis le troisième jour, le chef vint déposer son turban au pied de Stokes en signe de respect. Ils avaient entendu dire que les disciples de Jésus avaient l'ordre d'aimer leurs ennemis. Ils voulaient le mettre à l'épreuve et ils avaient vu le résultat et ça les avait stupéfaits. Et donc, à ce moment-là, ils ont apporté leurs mets les plus succulents, ils étaient avides d'écouter son enseignement. Voyez-vous, c'est vrai, conquis par la patience, conquis par l'amour. Alors que Dieu nous aide, hein, il y a du chemin devant nous, hein, il y a encore des choses à faire pour conquérir. Mais en tout cas, il y a un objectif. En tout cas, il y a un objectif. Et ça, maintenant, c'est mon dernier témoignage que je vous dis, ce sont les dernières paroles de l'évangéliste Moody. Donc, ce vieux combattant pour l'évangile, qui a gagné beaucoup d'âmes à Christ et qui a été un puissant moyen de Dieu. Et voilà quelles furent ses dernières paroles. Non, ce n'est point un rêve. C'est merveilleux, c'est admirable. Si c'est la mort, alors elle est belle. Ici, pas de sombre vallée. Dieu m'appelle, je dois aller. Puis, ayant avec ses proches et ses amis réglé différentes choses concernant la continuation de son œuvre, il redevint silencieux, comme contemplant à travers le voile l'éternité bienheureuse qui l'attendait. Soudain, il s'écria encore « Ce jour est un jour de triomphe et de couronnement. Je l'attendais depuis de longues années. » Une heure plus tard, il s'endormait sans combat dans la paix de son Dieu. Amen. Que Dieu nous soutienne, que notre fin soit semblable à la sienne et que nous puissions nous aussi être de ceux qui marchent dans ce chemin de conquête que Dieu veut pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous et dans lequel il veut puissamment nous soutenir. Béni soit son nom. Amen. Te remercions Seigneur pour la grandeur de ta bonté, de ta grâce envers nous. Te remercions Seigneur pour nous avoir secourus jusqu'à présent. Nous te remercions parce que nous voyons et pouvons considérer avec conviction, avec assurance, ton désir de le faire encore pour l'avenir, de le faire encore pour les temps qui sont devant nous, dans les situations dans lesquelles nous sommes, dans les positions où tu permets que nous puissions être. Et merci Seigneur parce que dans toutes ces situations, nous pouvons compter encore sur ton secours et ta bonté. Pour le faire avec confiance, Seigneur, et aussi avec remerciement, avec reconnaissance et avec action de grâce. Sois loué, sois béni notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons plusieurs annonces. L'école du mercredi pour les enfants d'âge collège, donc c'est le mercredi à 14h. La réunion de prière, c'est mercredi à 20h15. Ceux qui ont des questions bibliques, questions-réponses bibliques, c'est vendredi à 19h15, réunion d'évangélisation vendredi à 20h15. L'évangélisation dans les villages, c'est samedi, rendez-vous ici à 14h30. Je vous rappelle une mauvaise nouvelle, le changement horaire dans la nuit de samedi à dimanche prochain, une heure de sommeil de moins. Voilà. Ah si, c'est dur, la vie est dure. Voilà. Sinon, une réunion de préparation au baptême doit se dérouler le dimanche 3 avril à 16h. Donc ça concerne les candidats au baptême et ceux qui ont des questions à ce sujet. Dimanche 3 avril à 16h. Les baptêmes sont programmés pour le mercredi 13 avril à 20h15, donc un mercredi soir. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne.